Bon réveil, on va parler politique dans ce journal avec Jackie Briand. On fera un point sur les concours de la gendarmerie et de Miss Tahiti. Et puis on entendra Kawe Kokil, jeune sportif récompensé hier soir. Le journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Un changement du côté de la CPS.
Et oui, Vincent Fabre a annoncé hier qu'il quittera au 31 mars son poste de directeur général de la Caisse, nommé en 2020 pour remplacer Yvonique Raffin, qui était alors en partance vers le gouvernement. Ce cadre de la société de la Socredo devrait revenir au bercail de la Banque Oru. Il est pressenti pour être le numéro 2 de Régis Chang, qui est justement l'un de ses prédécesseurs à la tête de la CPS. Une opportunité professionnelle donc, mais aussi des raisons personnelles et familiales pour ce départ. La charge de directeur de la CPS serait lourde, stressante, chronophage, on veut bien le croire, d'autant que la protection sociale est en pleine réforme. Le futur ex-DG qui doit présenter son bilan le 23 mars estime toutefois que la Caisse est sur de bons rails. Écoutez.
Aujourd'hui, bien sûr, l'ensemble des dossiers ne sont pas réglés, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a quand même réussi côté CPS à structurer un certain nombre de choses. Je n'ai pas de doute sur la capacité de l'équipe existante en relation avec le conseil d'administration et le pays de savoir affronter les défis qui concerne la CPS, la réforme de la PSG, les grands équilibres budgétaires, la mise en place d'un système par branche, accompagner le CSPSU qui va être installé le vendredi 10 mars.
Vincent Fabre au micro de Caroline Perdri. Parmi les administrateurs, qu'ils soient syndicalistes ou représentants patronaux, ce départ ne semble ravir personne, surtout pas le président du conseil d'administration de la CPS, Patrick Galnon.
Je regrette beaucoup son départ. Monsieur Vincent Fabre a beaucoup travaillé à la CPS et je l'ai dit lors du conseil d'administration, je l'ai félicité. C'est vraiment un grand regret pour moi. Avec la difficulté que nous avons rencontrée ces dernières années, il fallait évidemment quelqu'un de très efficace, c'est ce qu'il a été.
Voilà, et à noter qu'un directeur par intérim sera nommé à partir d'avril, sans doute l'actuel directeur adjoint Vincent Dupont, et ce, dans l'attente de l'installation du prochain gouvernement.
De la politique avec Jackie Briand.
Et oui, Jackie Briand, piste pour les territoriales. Il était l'invité de la rédaction hier et il a confirmé que son parti Eura les Verts mènera pour la première fois une liste autonome au territorial du 16 avril. En 2018, le mouvement écologiste s'était allié avec Tahuti Nena, hors de question désormais. Mais vu les soutiens croisés à Éric Zemmour et à l'extrême droite, des discussions ont aussi eu lieu avec le Tavini après sa victoire législative. Mais Oscar Temaru ne veut visiblement pas entendre parler d'une nouvelle alliance de type UPLD. Il avait dit sur ce plateau d'ailleurs, ce qui bloque surtout pour son ancien ministre Jackie Briand, c'est que les Bleus Ciel font passer l'indépendance avant tout autre combat, y compris le combat écologique. Écoutez.
Il y a une conception qui est celle du Tavini, qui présente l'évolution institutionnelle comme un préalable. C'est complètement, dans notre approche, une question qui est hors sol. Nous ne vivons pas dans une bulle dans laquelle autonomistes et indépendantistes protégeraient la Polynésie des effets qu'on nous annonce aujourd'hui avec certitude, qui sont liés au changement climatique. Donc on ne peut pas être configuré dans une analyse qui n'a plus lieu par rapport à cette situation qui est une véritable menace pour le fait nous aujourd'hui.
Et pour Jackie Briand, avant de discuter d'institutions et de statuts, vous l'avez compris, il faut organiser le changement dans la société polynésienne. Changement de mode de vie, changement de mode de consommation, de mode de production d'énergie aussi. Et Eura les Verts promeut depuis de longues années l'énergie thermique des mers.
C'est le parallèle avec le SWAC, où on va chercher du froid pour faire de la clim. Ici, on va chercher du froid pour produire un gaz qui va à son tour faire tourner les turbines, qui va produire de l'électricité. Ça fonctionne 24 heures sur 24, c'est pas comme le solaire. La seconde option, c'est qu'une fois que vous avez produit cette énergie, vous utilisez pour en faire de l'hydrogène. Aujourd'hui, les moyens de transport sont confisqués par l'essence et diesel. Et nous avons fait dans l'approche d'une estimation économique sur un plan quinquennal de 5 ans donc pour la prochaine mandature, un investissement de 100 milliards.
100 milliards pour l'énergie thermique des mers et pour l'hydrogène. À noter que le chef de file de Eura les Verts veut aussi faire de la santé une grande cause territoriale. À l'image de ce qui avait été fait en matière d'hygiène dentaire il y a quelques décennies, il faut envoyer d'après lui du personnel dans les écoles, dans les communes, mais aussi mettre en place une fiscalité plus pesante sur les produits gras et sucrés. Toute l'interview de Jackie Briand est à retrouver sur radio1.pf.
Il est 7h05, la gendarmerie recrute toujours au Fénois.
Et le Fénois serait même le plus gros centre de recrutement de France, au moins en ce qui concerne le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie. Un corps très demandé par les jeunes polynésiens, des centaines de candidats au concours chaque année parmi les milliers du national. Et depuis 3 ans, pas moins de 150 lauréats en Polynésie. Cette année, ils ont été 36 jeunes polynésiens à être admis. Ils signeront dans quelques heures leur engagement en tant que sous-officier. Le départ, c'est dès demain pour Rochefort, en Charente-Maritime, où ils bénéficieront de 6 à 10 mois de formation mécanique, restauration collective ou armurerie et pyrotechnie, chacun sa spécialité. La première affectation, elle, sera forcément en métropole.
Et puis un autre concours tout aussi disputé.
Si ce n'est plus, puisqu'on parle du concours de Miss Tahiti, le casting 2023 est lancé pour trouver la reine de beauté qui succédera à Erenui Tuayava. Les critères n'ont pas évolué. Être née femme et polynésienne, avoir entre 18 et 28 ans, ne pas avoir subi de chirurgie plastique ou avoir fait des photos de nu, mais aussi être célibataire, non marié, non divorcé et sans enfant. Les candidates tatouées ou de moins d'1m70 peuvent participer, mais elles ne peuvent pas repartir avec la couronne de Miss Tahiti et donc participer à Miss France. Le comité insiste sur la nécessaire disponibilité des candidates qui subiront 6 semaines de formation et de coaching intense avant l'élection qui doit avoir lieu au mois de juin.
J-3 avant le marathon de Moréa.
Et oui, l'île Sœur s'apprête à accueillir la 32e édition de cette course et les organisateurs ont fait le point hier sur le programme particulièrement chargé de ces deux jours. 6 courses et une ambiance festive et familiale. Il y en aura pour tous les goûts, assure Manuari Kek, le président de Moréa Events.
Le but de l'association, c'est de promouvoir bien sûr le sport, la pratique de l'athlétisme, mais aussi la pratique du sport plaisir, sport en famille, bien sûr aussi le sport de compétition, puisque ce week-end, on organise à peu près 6 courses. Il y a toutes les distances, pour toutes les catégories, que l'on soit un enfant ou un adulte, un chevronné, un professionnel, ou tout simplement un passionné du sport.
Et depuis la première édition en 1988, la commune de Moréa insiste sur le côté international de son marathon. Cette année, sur l'épreuve reine, on pourra ainsi suivre 3 Américains, des représentants de la Grèce, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie ou encore de l'Australie, à côté de ses performeurs. Vous l'avez compris aussi, des amateurs, notamment dans la course fun avec un parcours de 5 km accessible à tous. Ce sera vendredi soir. Un village ouvrira aussi vendredi après-midi à partir de 15h sur la plage de Témé. 300 athlètes sont attendus sur la ligne de départ et les inscriptions sont encore possibles jusqu'à demain.
Et puis Charlie, on termine ce journal par les trophées du sport.
Et oui, la 9e cérémonie de remise des prix a eu lieu hier soir avec 18 trophées et plusieurs grands gagnants. Vainé Fierro et Taïva Jacquelin qui ont été nommés par le jury meilleur athlète de l'année. Aélène Vast et Taputuara Delpuech qui repartent avec les prix Espoir 2022. Mais le trophée le plus attendu était probablement le grand prix du public basé sur les votes par SMS et sur Internet. Et à ce jeu, c'est le jeune champion de Jiu-Jitsu, Kawai Kokil, pourtant classé en catégorie espoir, qui l'emporte. On l'écoute au micro de Vaitiaré Gobré.
Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent et surtout de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent le Jiu-Jitsu aussi parce que pour moi, c'est ce qui montre l'importance d'un sport quand c'est le public qui vote, tu vois, et l'athlète aussi en lui-même. Non, je ne m'attendais pas à gagner ce prix. Moi, je pensais que c'était Cynthia qui allait gagner parce que quand j'ai vu sur Facebook et tout, elle avait quand même beaucoup de votes.
Kawai Kokil, bravo à lui. Et parmi les autres prix remis hier, la Xterra et Shelva, qui est déjà récompensée au Aito Tuaro, qui ont été désignés meilleur événement et meilleure équipe de l'année. On peut noter aussi Tuteari Watua, qui est nommé meilleur rameur, Matai Drolet, qui remporte le prix de la meilleure vague. Quant à Samuel Garcia, il remporte le trophée du meilleur entraîneur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 8h. Ce sera pour un flash.
Avec plaisir, Charlie. Merci beaucoup. Il est 7h.